VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
À Nouakchott, midi, N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Guinée, la présidentielle aura lieu dimanche comme prévu. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en a donné l'assurance hier. Une réponse à l'opposition qui, faisant état de dysfonctionnement et d'anomalie, avait appelé au report du scrutin. Michel Joseph.
L'état des préparatifs du scrutin du 11 octobre est largement satisfaisant, a affirmé mercredi Amadou Salif Kébé, porte-parole de la CENI, lors d'une conférence de presse à Conakry. Selon M. Kébé, la CENI se prononcera avant le premier tour sur les réserves émises par les 7 candidats de l'opposition concernant notamment la fiabilité des listes électorales et le retard dans la distribution des cartes d'électeurs. Le porte-parole de la CENI a tout de même reconnu que la distribution des cartes d'électeurs a atteint des niveaux variant entre 45 et 80% selon les régions. Pendant ce temps, la campagne électorale ouverte le 10 septembre bat son plein à Conakry, la capitale, et dans les régions, l'opposition ayant exclu de boycotter le scrutin du 11 octobre. Seuls quelques incidents localisés ont été signalés, les derniers à Nzérékoré, dans le sud-est, la semaine dernière.
Côte d'Ivoire, Amara Issi, candidat à la présidence et ancien ministre des Affaires étrangères d'Oufouette Boigny, suspend sa participation à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Il estime que les conditions pour un scrutin transparent et équitable ne sont pas réunies. Au micro de Jean-Roger Bion, les explications de son directeur national de campagne, le député Kramo Kouassi.
Il a suspendu sa participation au processus en attendant que certaines revendications qu'il a portées jusque-là relatives à la transparence du processus soient prises en compte. Donc, ça n'est pas un retrait de la course, c'est une suspension de sa participation en attendant la réalisation de certaines exigences.
Quelles sont les principales exigences?
Écoutez, les principales exigences sont connues et sont constantes. La commission électorale indépendante, dite CEI, est composée de façon déséquilibrée et ce déséquilibre a été déplié depuis bien longtemps. La commission centrale de la commission électorale indépendante est composée de 17 membres. Les 17 membres, il y en a 13 au moins qui sont proches du président sortant, alors que la commission centrale est l'organe exécutif de la commission électorale. Et des 10 candidats, le mien n'a pas de représentant, M. Bani ou M. Mamadou Koulibaly, pour ne citer que ceux-là, et tous les autres, Kakabé, Kwadio Konan Bertin, le député, aucun de ces candidats n'a de représentant au sein de la commission électorale indépendante.
Alors, M. Kramo, pourquoi avoir attendu maintenant à quelques jours de l'élection présidentielle pour aviser sur ces questions?
Je vous ai dit que nous n'avons eu de cesse d'exiger que la commission électorale indépendante soit réformée. Ça a été une revendication constante. Elle a toujours été martelée. C'est parce que le gouvernement a sourde oreille jusqu'à maintenant que Issi Amara a décidé que, compte tenu du fait que les dés sont manifestement pipés, le système est biaisé. Il ne s'agit pas pour lui de cautionner donc ce processus électoral dévoyé.
Attendez-vous un impact particulier de cette suspension?
Écoutez, bien sûr que je souhaite que ça ait un impact sur la suite. Je viens de participer à une réunion, un meeting qui a regroupé d'autres candidats qui portent les mêmes exigences que mon candidat et qui ont exprimé avec beaucoup de clarté leur souci de voir ces exigences-là prises en compte. Sinon, ils aviseraient. Quand ils disent qu'ils aviseraient, j'espère bien qu'ils emboîteront le pas à mon candidat pour que la pression sur le président sortant soit décuplée, pour que nous puissions obtenir des élections transparentes. Parce que la Côte d'Ivoire sort d'une grave crise et l'élection de 2015 est attendue pour fournir à la Côte d'Ivoire un président de la République dont la légitimité ne peut pas être contestée.
Le député Kramo Kouassi, directeur national de campagne de Amara Issi, candidat à la présidence. Le député Kouassi a été joint à Abidjan par Jean-Roger Bion. Élections en Afrique toujours, RDC, l'ONU exhorte une nouvelle fois le gouvernement congolais à garantir des élections crédibles. Un appel réitéré par Martin Kobler, chef de la mission onusienne dans le pays, lors de sa dernière intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Eddie Sango.
Martin Kobler demande que le gouvernement congolais prenne toutes les mesures nécessaires pour que les élections législatives et présidentielles prévues en 2016 soient transparentes, crédibles et qu'elles n'excluent personne. Des élections qui doivent se tenir dans les délais constitutionnels, souligne-t-il. Le chef de la MONUSCO s'est dit préoccupé par les fortes tensions politiques dans le pays et dénonce un nombre croissant de violations des droits de l'homme liées au processus électoral, particulièrement les droits des rassemblements pacifiques. Des violations qui ont été relevées par Human Rights Watch, qui a pointé du doigt des responsables des services de sécurité et du parti au pouvoir impliqués dans l'attaque d'un rassemblement d'opposition le 15 septembre, une accusation rejetée par Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, la justice centrafricaine a ouvert une enquête notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et incitation à la guerre civile, après les dernières violences à Bangui qui ont fait 61 morts. L'enquête vise à rechercher et arrêter les présumés auteurs et complices, a annoncé hier soir le ministre de la Justice. Les précisions d'Idrissa Sedoudia.
Intervenant à la radio d'État, le ministre Aristide Sokambi a justifié cette décision par le constat, et je cite, de comportements flagrants qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile, à la haine et de complicité. Fin de citation. D'après lui, des responsables politiques se sont réunis pour réclamer une troisième transition afin de retarder le processus électoral prévu début octobre et soutenir publiquement ces violences. Des officiers de l'armée, comme le capitaine Eugène Ngaïkossé, le lieutenant Olivier Koudémon, alias Banguma, le nommé Mokom et autres recherchés par la justice centrafricaine pour divers crimes commis dans notre pays, se sont impliqués ouvertement dans tous les différents mouvements pour attenter à l'ordre établi, a souligné le ministre Sokambi. Ces officiers faisaient partie de la garde rapprochée de l'ex-président François Bozizé, renversé en mars 2013 par la rébellion de la Seleka.
Le président des États-Unis, Barack Obama, a présenté hier des excuses à MSF, Médecins sans frontières, pour l'attaque américaine qui a fait 22 morts et de nombreux blessés samedi dernier dans un hôpital dirigé par MSF à Kunduz, en Afghanistan. Le même jour, MSF a réclamé à Genève l'ouverture d'une enquête de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits. Cette commission est le seul organe mis en place spécifiquement pour enquêter sur les violations du droit humanitaire. Pour des précisions, Nathalie Borges a joint à Paris Stéphane Roch, directeur de MSF France.
De manière étonnante, jamais elle n'a été activée comme vous le dites. C'est pas par manque de sujets, hein. Il y a eu quand même dans les 20-30 dernières années bien sûr un certain nombre de cas de figure où des attaques ont eu lieu par des belligérants sur des hôpitaux notamment et des structures de soins. Aujourd'hui, nous considérons que c'est trop grave ce qui s'est passé. Il y a eu trop de versions différentes de l'administration américaine, de l'OTAN, des gouvernements afghans. Et vraiment, les choses n'apparaissent pas claires du tout. Le tribut payé par les équipes et les patients est vraiment important et parfois, on peut imaginer une trajectoire malheureuse d'un missile et qu'il y ait un certain nombre de pertes civiles et évidemment c'est toujours dramatique. Et là, on passe un cran au-dessus, c'est-à-dire que tout le monde savait ce qui se passait dans cet hôpital, qui traitait des patients. Nous avions informé toutes les parties de manière très très transparente et néanmoins, il y a eu cet incident avec de multiples attaques ciblées sur cet hôpital. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment que la lumière soit faite et que ça puisse servir d'exemple pour renforcer, si on était besoin, la nécessité de protéger l'action humanitaire et de protéger l'accès aux patients à des structures de soins dans les zones de conflit.
Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que ce mécanisme d'enquête soit activé ?
Un seul pays signataire peut demander une telle enquête. Mais en l'occurrence, il faut que les parties au conflit, et là en l'occurrence les États-Unis d'Amérique et le gouvernement afghan, acceptent le principe d'une telle enquête.
Et ne craignez-vous pas que les États-Unis ou l'Afghanistan refusent finalement hein ?
Bien sûr, c'est une hypothèse tout à fait possible. Mais c'est pas parce que c'est possible qu'il faut pas se donner toutes les chances d'y arriver quand même. On va pas relâcher la pression. Il est hors de question d'oublier cette tragédie et de la considérer comme une des nombreuses erreurs assimilées à des dommages collatéraux. On n'est pas prêt du tout à arrêter le combat pour faire reconnaître que c'était un crime de guerre d'après les informations que nous avons et pour qu'on puisse utiliser cette erreur pour les futurs conflits.
Est-ce que jusqu'ici, ce sont seulement des enquêtes internes militaires qui ont été proposées?
Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on a entendu par le gouvernement afghan, le gouvernement américain et par l'OTAN. Mais ce sont des enquêtes internes diligentées par des parties prenantes au conflit et des parties prenantes à cette erreur tragique. Qu'il y ait des enquêtes internes, très bien. Je veux dire, chaque organisation doit s'améliorer et doit regarder ce qui n'a pas fonctionné. Mais ça ne peut pas suffire pour faire état de la vérité.
Stéphane Rock, directeur général de MSF France. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.